Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir sur les 3-8 Radio Grenouille. Le ravi pour l'émission La Grande Tchatch. Le ravi, c'est dans tous les kiosques de la région PACA. C'est également un site internet www.leravi.org. Aujourd'hui dans le ravi, on continue notre pérégrination à travers le département et même la région, puisqu'on rejoint aujourd'hui Cécile L, conseillère régionale PS. Bonjour.
Bonjour.
Première question, Cécile L, est-ce que vous êtes abonnée au ravi ?
Non, je ne suis pas abonnée au ravi, mais je l'achète de temps en temps, puisque je crois que ça fait un an maintenant que vous êtes présent dans les kiosques avignonnais.
Bah écoutez, pour si vous voulez vous abonner, pour les autres qui souhaitent s'abonner, vous pouvez également le faire en ligne. Je répète encore une fois le site, c'est leravi.org. Donc, pour vous abonner, Cécile L, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, c'est Michel Guéroux qui s'y colle.
C'est le retour en force des télécrochets sur la TNT. À la recherche de la nouvelle star sur D8, Star Academy sur Énergie 12 et bientôt une nouvelle saison de The Voice sur TF1. Avignon, la ville qui a vu naître Mireille Mathieu, ne pouvait pas être en reste. Grâce aux socialistes, la Cité des Papes est aussi à la recherche de la meilleure voie. Qui tentera de reconquérir la mairie après 2 décennies passées à droite à la sauce Rouag ? Doublant tous vos rivaux potentiels, vous êtes la première à entonner le couplet « Je suis votre nouvelle star ». Vous venez de lancer les ateliers de 2014, un comité de soutien à votre candidature. Le refrain est simple à retenir, « Elle et nous ». La partition est connue, des rencontres publiques de proximité, un site, une page Facebook, un comité de soutien. Une star, peut-être, mais une nouvelle star, ce n'est plus vraiment le cas, jeune Quadra. Vous roulez pourtant en politique depuis pas mal d'années. C'est que vos débuts ont été précoces et tonitruants. Vous avez seulement 28 ans lorsque vous devenez la Benjamine de l'Assemblée nationale en 2007. Elisabeth Guigou, dont vous êtes la suppléante, est nommée au gouvernement et vous a laissé sa place. Tout va très vite. Vous voilà aussitôt, toujours à 28 ans, secrétaire nationale chargée des droits de l'homme, puis première secrétaire fédérale du Vaucluse. La suite est plus âpre. Marie-Josée Rouag met en échec Elisabeth Guigou municipale et vous bat aux législatives en 2002. Vous passez le relais à la tête de la fédération et vous retournez à la case départ comme simple conseillère municipale d'opposition. Mais vous ne restez pas longtemps à faune devant vos étudiants à la fac d'Avignon où vous enseignez la géographie. Le virus de la politique vous relance rapidement sur un nouveau répertoire. Conseillère régionale depuis 2004, tour à tour déléguée à la politique de la ville, vice-présidente à l'aménagement du territoire, vous venez tout juste d'être nommée vice-présidente déléguée à la culture. Ce qui nous ramène en toute logique et très directement à Mireille Mathieu, la chanson, au télécrochet et à votre ambition déclarée pour les municipales. Donc, si vous voulez que Cécile, elle, soit candidate socialiste aux municipales en 2014, tapez 1. Si vous préférez Michel Fournier Armand, tapez 2. Si vous votez Christine Lagrange, tapez 3. Si vous choisissez Paul Hermelin, tapez 4. Les soulises ne manquent pas. Il va falloir que la Solferino Academy organise une primaire par SMS. N'oubliez pas, elle et nous, tapez 1.
Cécile, elle, un commentaire sur ce portrait ?
Non, je pense qu'il retrace effectivement un engagement politique qui a été précoce. Et après, comme tout engagement politique, j'ai connu des hauts et des bas. Mais c'est aussi, je pense, dans la défaite qu'on se forge à la fois un caractère et une conviction. Et en tout cas, pour ce qui concerne mon positionnement dans la perspective des municipales de 2014 sur Avignon, c'est vrai que j'ai longtemps réfléchi. Cette envie, elle est au fond de moi depuis un certain temps maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le mandat qui m'intéresse le plus, quoi. Donc j'essaye, notamment à travers l'atelier de 2014, de créer une dynamique autour de cette éventuelle candidature.
On aura bien entendu l'occasion de revenir sur ces municipales qui sont disputées, comme l'a dit Michel Guéroux tout à l'heure, plusieurs candidats. Auparavant, on attaque le national, Michel.
Oui, on ne l'a pas dit dans le portrait, mais vous êtes proche de François Hollande depuis longtemps, c'est avant même que ça soit la mode.
Dans une fédération qui était strauss-kahnienne.
Hein. Voilà.
Oui, c'est ça. Et puis après, qui s'est partagé en fait, dans la primaire entre le soutien à Martine Aubry, puisque le premier fédéral, Jean-François Lovisolo, soutenait plutôt la candidature de Martine Aubry, et les soutiens à François Hollande. Moi, j'ai fait le choix, en fait, assez tôt de soutenir la candidature de François Hollande. Donc, c'était au printemps 2010. Parce qu'il me semblait le plus en mesure, en fait, de répondre aux attentes de changement et aux attentes d'une politique de gauche de la part des Français et des Françaises.
Alors le changement, c'est maintenant. Certains disent que ça change doucement ou pas du tout. Et puis il y a des moments compliquée. Là. Par exemple, ce fameux dossier autour de très symbolique autour d'ArcelorMittal et un cafouillage, cette annonce de nationalisation et puis un résultat qui déçoit beaucoup de monde.
On a vu des titres assez farouches, assez sévères même, les amateurs qualifiant ainsi le Premier ministre et le Président de la République à propos de cette affaire.
Je crois que les attentes de changement, elles étaient fortes. Donc je pense que le temps du gouvernement et le temps de la décision est pas forcément en correspondance effectivement avec une volonté de changement et de changement rapide quoi. Donc on est tous collectivement souvent impatients de voir très concrètement effectivement changer la donne à la fois d'un point de vue socio-économique mais sur des grands dossiers. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été portées dès le départ par le gouvernement et qui ont marqué quand même le changement. Aujourd'hui, on les considère comme étant des choses acquises, mais la revalorisation, par exemple, de la prime de rentrée scolaire pour soutenir le pouvoir d'achat des familles, la revalorisation aussi, le coup de pouce qui a été donné au SMIC dès le mois de juillet. Il y a eu comme ça des dispositions, y compris par exemple le gel des crédits aussi dans le monde de la culture qui ont été réabondés par la ministre quand elle a pris ses responsabilités. Tout ça,
elle a quand même supprimé 1 milliard, mais on y reviendra sur la politique culturelle du gouvernement.
Oui, mais en tout cas, sur les crédits qui étaient gelés en 2012, ils ont été dégelés et ça a permis de réabonder un certain nombre de structures culturelles. Je siège au sein d'un certain nombre de conseils d'administration où on a revu arriver ces crédits d'État avec joie et en tout cas, ça a rassuré, je dirais, ce monde culturel. Après, évidemment, il y a des dossiers symboliques. Hein. Enfin, le contexte, je pense, aussi économique qui est quand même très compliqué. Il y a des dossiers symboliques comme celui d'ArcelorMittal. Après, moi, je pense que ce que montre aussi ce gouvernement, c'est qu'il y a un débat en son sein. Et je pense que les Français étaient peut-être plus habitués à ça.
Un débat ou un déchirement ? Est-ce que c'est logique qu'il y ait un débat alors que le gouvernement est censé quand même mettre en application un programme ?
Écoutez, c'est des décisions qui sont fortes, quoi. Le contrôle public du capital d'une entreprise comme ArcelorMittal ou la confiance faite en un entrepreneur ou un chef d'entreprise, on va dire, pardon, de recapitaliser ou en tout cas de réinvestir au sein de son outil de travail. Voilà, c'est deux choix qui sont pas neutres. Moi, je trouve que c'est normal de la part de personnalités politiques qui aujourd'hui composent le gouvernement qu'il y ait des divergences de position. Après, une fois que la décision elle est prise, je pense que tous les ministres qui étaient plutôt sur la solution portée par Arnaud Montebourg, j'ai entendu hier encore Delphine Bateau, j'ai aussi entendu Aurélie Filippetti qui est élue de ce territoire, on sent que pour elles, la solution était autre, mais qu'en même temps, elles acceptent la position finale qui a été prise par le gouvernement et le président de la République. Ce qu'elles disent, c'est simplement qu'elles espèrent que le chef d'entreprise ArcelorMittal va pour une fois tenir sa parole.
Est-ce que la gauche, là, au pouvoir, celle de François Hollande, est pas très en arrière par rapport à ce qu'avait été la gauche de François Mitterrand, qui avait nationalisé en arrivant au pouvoir? Est-ce que ça veut dire que le politique, les politiques et le président actuel a moins de pouvoir? Il semble très très conciliant quand même par rapport à ces grands opérateurs économiques, ces groupes aussi contestés et contestables soient-ils.
Certains critiquent même la présence du gouvernement, ou en tout cas de plusieurs ministres du gouvernement, dont le Premier ministre, à la fête du MEDEF, avec à l'arrivée une politique qui est plutôt timide.
Moi je pense qu'il faut qu'il ne faut pas s'interdire d'aller, enfin en tout cas qu'il faut être présent partout. Donc y compris à l'université d'été du MEDEF. C'est pas parce qu'on est un ministre socialiste et un premier ministre socialiste qu'on n'a pas à y aller. Au contraire, je pense qu'on a à y aller et à porter son projet politique et son positionnement politique. Après, je pense que le contexte politique, il est plus du tout le même que celui du temps de François Mitterrand, quoi. Et après, on connaît aussi ce qu'a été le début du mandat de François Mitterrand et comment, à partir de 83, il y a eu un virage de la rigueur. Enfin, je pense que nous tous autour de cette table, nous étions jeunes, mais voilà, on a aussi une culture politique où on se rappelle qu'en 83, l'arrivée de Michel Rocard en tant que Premier ministre, etc., a marqué un virage dans la gestion, on va dire, socialiste gouvernemental de cette période-là. Donc après, moi, ce que je crois, en tout cas, c'est au volontarisme politique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire Et à tous les échelons, hein, y compris si on vient ensuite sur des projets ou des enjeux qui sont plus de nature locale. En fait, la question aujourd'hui, c'est ça, c'est est-ce que le politique, à un moment donné, il se redonne les moyens de pouvoir agir pour modifier la donne et pour ne pas se laisser effectivement dicter sa loi par le milieu économique.
Alors vous parlez de volontarisme politique sur un autre dossier très symbolique pour la gauche depuis des années, qui renvoie effectivement à nouveau à François Mitterrand. Il y avait cette promesse de donner le droit de vote aux étrangers, aux élections locales. Cette promesse semble renvoyée à plus tard, à très tard, voire à jamais. Est-ce que là, vous pensez, vous, qu'il aurait fallu avoir peut-être un peu plus de volontarisme, le Parti socialiste est majoritaire au Sénat, à l'Assemblée, dans pratiquement toutes les collectivités locales. Donc, est-ce que les conditions n'étaient pas, même si elles restent difficiles, réunies pour tenter cette réforme-là très symbolique ?
Je pense que les conditions, elles sont effectivement, elles restent difficiles, mais je crois savoir qu'il va y avoir peut-être une initiative du premier secrétaire du Parti socialiste, en l'occurrence Harlem Désir, pour que justement en appeler à l'ensemble des parlementaires et notamment des députés socialistes pour montrer que pour le Parti socialiste, en tout cas, cette mesure et cette proposition, elle reste d'actualité et ça a été un engagement de campagne. Donc moi, je pense que sur un sujet comme celui-là, effectivement, même si c'est un sujet compliqué, on le mesure bien, notamment quand on est élu des territoires du sud de la France, je pense que c'est de notre responsabilité, de notre engagement, que d'aller au-devant des citoyens pour expliquer le bien fondé d'une telle proposition, sachant qu'il y a beaucoup de pays européens aujourd'hui où les ressortissants étrangers peuvent voter aux élections locales, peuvent y compris se présenter, hein, pour être membre de conseils municipaux. Et les expériences prouvent que, en général, ça enrichit l'action politique plutôt que de la brider ou je ne sais pas trop quel autre danger éventuel qui pourrait être brandi par les uns et par les autres. Donc, en tout cas, moi, je ferai partie de celles qui, au sein du Parti socialiste, s'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, accepteront de mouiller la chemise pour défendre cette proposition. Je pense que on est à une période où, quand il y a des engagements comme ça, après, il me semble effectivement important de pouvoir les mettre en œuvre. Alors après, ça n'empêche pas que un président de la République et un Premier ministre, il n'est pas à la même position à laquelle moi je suis en tant qu'élue régionale, mais là en tant qu'on va dire militante du Parti socialiste. Donc je pense que c'est aussi des éléments dont il faut tenir compte pour expliquer non pas un revirement de François Hollande. François Hollande, il a porté cette proposition quand il était candidat devant les Françaises et les Français dans le cadre des élections présidentielles. Donc je pense qu'il est convaincu aujourd'hui encore du bien fondé de cette proposition. Après, en même temps, aujourd'hui, il est président de la République, donc il est le garant aussi de la cohésion, je dirais, nationale et de faire en sorte que des propositions auxquelles il croit, évidemment, ne doivent pas aboutir à une division qui pourrait être terrible de notre pays. Quoi.
Cécile, quelle est finalement la marge de manœuvre de ce gouvernement? On voit qu'il a très peu d'options vis-à-vis de l'économie. Il reste des choses que certains pourraient dire qui sont de moindre importance. Le mariage pour tous, on évoque des choses comme ça. Ce matin, le Premier ministre a annoncé une augmentation plutôt timide du RSA de 20%, je crois. Finalement, sa vraie marge de manœuvre, elle est de quel ordre?
Moi, je pense que des marges de manœuvre, il en existe. D'abord, le gouvernement a commencé aussi, par exemple, à rééquilibrer la fiscalité par rapport à ce qui s'était passé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc, je pense que ça aussi, c'est un signe fort que de dire, on arrête de faire des cadeaux aux riches, des cadeaux fiscaux aux riches, et on va rééquilibrer la fiscalité. Au contraire, on va demander à ceux qui gagnent le plus aujourd'hui dans notre pays de faire un effort significatif pour effectivement soutenir une politique.
Vous pensez-vous aussi, comme François Hollande, que vous n'avez qu'un seul ennemi, c'est la finance?
Après, la finance, non, mais ça dépend à quoi elle sert. Si elle sert à enrichir ceux qui dorment sur leurs deux oreilles et qui s'enrichissent parce que c'est des rentiers, ouais, ça me gêne. Si après c'est une finance qui va investir par exemple dans le tissu économique, y compris des PME, PMI, ou qui va soutenir la recherche et l'innovation, là ça va aider à la compétitivité de mon pays, donc cette finance-là, à la limite, elle ne me dérange pas, dans la mesure où elle répond évidemment quand même à des règles et à un encadrement. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire la différence. Par contre, ce qui me semble aujourd'hui important, c'est oui, de pouvoir ponctionner les plus hauts revenus pour que l'État se redonne des marges de manœuvre financière et pour qu'à nouveau, il y ait des politiques publiques un peu ambitieuses qui puissent se développer sur l'ensemble du territoire national.
Michel ? Vous parliez de débats au sein du gouvernement. Il y en a un autre qui agite sur des thématiques en général liées à l'écologie, entre les partenaires verts, Europe Écologie et le Parti Socialiste. Il y a ce fameux aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui devient un objet très symbolique. Alors certains parlent d'un nouveau Larzac, enfin si ça dure aussi longtemps, on va en parler encore un bon moment. Il y a une marche en ce moment il y en a plusieurs en France, il y en a une qui traverse la région, qui partait de Nice et qui est dans le Var et qui se dirige vers Nantes. Vous pensez quoi de ce dossier et de ces tensions sur la question, sur ces questions-là de transition énergétique, d'autres modèles de développement. Est-ce que ça vous paraît central ou secondaire tout ça ?
Ben, à mon avis, enfin, sur des dossiers comme ça, on peut pas considérer que c'est secondaire. On va dire que c'est des questions qui sont centrales. C'est-à-dire aujourd'hui, dans beaucoup de projets, enfin, ou même moi, quand j'étais vice-présidente à l'aménagement du territoire, j'ai souvent mesuré combien parfois on pouvait être dans des objectifs qui sont contradictoires. Par exemple, quand on essaye de répondre à la crise du logement en disant il faut produire des logements et notamment des logements sociaux, et qu'en même temps, dans le même discours, on va dire il faut préserver les terres agricoles aux abords des villes, on voit bien qu'on est sur des objectifs qui sont contradictoires. Quand j'entends les élus qui sont favorables à cet aéroport aux abords de Nantes et qui disent mais pour nous, cet aéroport, on en a besoin parce que c'est sur lui que va s'asseoir l'attractivité de notre territoire. Il y a cet objectif-là. Puis à côté, il y a aussi des agriculteurs ou des écologistes qui disent « Oui, mais c'est une remise en cause de la biodiversité, etc. » Donc on est dans ces contradictions aujourd'hui quand on prend des décisions. Donc après, toute la question, c'est est-ce qu'on est en mesure, quand on est des décideurs, de trouver le juste équilibre entre ces enjeux contradictoires. Et donc, moi, ce que j'observe, en tout cas, sur ce projet-là d'aéroport, c'est que le Premier ministre a mis en place là, un comité de concertation. Parce que moi, je pense que le pire, c'est quand...
Il n'aurait pas pu le faire avant, non ?
En tout cas, il l'a fait.
Oui.
Après, moi, je pense que le pire, en tout cas, sur des projets comme ça, c'est quand il y a de l'incompréhension, c'est quand il y a effectivement...
En même temps, le projet est acté. Hein, faire de la concertation alors que tout est décidé, budgété et lancé, c'est un peu prendre les gens pour des plaisantins, non ?
Bah, c'est peut-être renouer aussi le dialogue, quoi, parce que moi, vous savez, je ne crois pas aux solutions qui aboutiraient par des actes de violence, etc. etc. Ça, moi, j'y crois pas.
Discuter de quoi quand
on
ne
peut
est
pas
décidé.
Se satisfaire de situations de tension comme celles qui existent aujourd'hui autour de cet aéroport. Donc moi, je pense que cette commission de concertation, c'est quand même une première réponse. D'ailleurs, elle a été saluée par un certain nombre d'opposants, pas par tous, mais par un certain nombre, parce que moi je pense qu'il faut absolument retrouver les fils du dialogue. Après, sur ces projets d'infrastructure, il y a souvent effectivement des oppositions qui émergent. Moi, je ne connais pas ensuite dans le détail le projet en lui-même.
Mais vous-même, vous êtes pour, vous êtes contre ça vous semble une bonne idée aujourd'hui, quand on parle d'énergie alternative, de mettre un aéroport qui peut-être pas non plus la...
Non, mais moi je suis d'accord avec vous, mais je pense que il y a encore beaucoup de gens qui vont se déplacer.
Il y a déjà un aéroport. Enfin.
Je suis d'accord. Ouais. Après, moi, je fais partie des élus, en tout cas quand j'avais là encore la responsabilité de l'aménagement du territoire, qui effectivement est convaincu qu'on n'aménage pas le territoire aujourd'hui, donc en 2012 comme on l'aménageait en 1980. Et je pense qu'effectivement, il faut aussi sortir de l'idée que l'aménagement du territoire passe nécessairement par la réalisation de grandes infrastructures. Voilà. Moi, c'est ma philosophie. Après, c'est une philosophie qui est globale. Donc vous êtes parce que je le redis,
contre la construction de cet aéroport.
Je ne connais pas le dossier à proprement parler, si tant est en plus que c'est visiblement un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Il date quand même depuis une dizaine, voire même deux décennies, si j'ai bien suivi, si je me suis quand même bien intéressée à la question.
Donc Cécile, vous êtes contre cet aéroport, vous êtes pour cet aéroport ?
Non, je ne répondrai pas à cette question. Non,
parce que c'est compliqué, parce qu'on relira la question, bien entendu. C'est un gros projet.
Oui,
être contre l'aéroport, ça serait logique aussi d'être contre le tramway, on en parlera tout à l'heure.
Des
projets qui sont...
Dans mon engagement d'élu, quand je prends une décision, j'essaye de la prendre en connaissant parfaitement la situation, le projet et le contexte
donc,
dans lequel s'inscrit le projet.
Donc aujourd'hui, vous êtes sans opinion sur cet aéroport.
Voilà, ce que... Je vous ai présenté quelle était ma philosophie en tant qu'élu qui a eu à faire avec des enjeux d'aménagement du territoire. Et ce que je redis, et ça je l'assume complètement, c'est qu'effectivement, on n'aménage pas le territoire aujourd'hui comme on l'aménageait il y a 20 ans. Et je pense qu'il faut sortir de la logique où tout aménagement du territoire passe nécessairement par la construction de grandes infrastructures. Donc ça, je le redis, ça c'est clair. Après, par contre, sur ce projet spécifiquement, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je ne connais pas suffisamment les tenants et les aboutissants du projet. Je ne connais pas le contexte non plus territorial dans lequel il s'inscrit. Et c'est la raison pour laquelle je resterai dans la réserve par rapport à la question que vous me posez, êtes-vous pour ou contre ? J'en suis désolée parce que ce n'est pas mon habitude, mais j'aime bien, quand je prends une position, vraiment la prendre en connaissance de cause.
Alors on se rapproche justement du territoire et sûrement de dossiers où vous pourrez être sur des positions plus tranchées. Mais à travers une dernière question d'actualité générale, c'est à droite, l'UMP, et un spectacle qui nous ramène à la télé-réalité dont qu'on évoquait au tout début de l'émission. Le match Juppé-Copé, la création d'un nouveau groupe à l'Assemblée nationale, et puis aussi un vote interne sur l'émotion. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet épisode-là ?
Je pense qu'ils se sont décrédibilisés tout seuls, quoi. Donc c'est, à la limite, c'est pas la peine d'en rajouter. Après. Vous savez, moi, je vais pas faire non plus de grandes leçons parce que je crois que la démocratie interne, c'est compliqué dans les partis politiques. Donc voilà. Enfin, on en a la preuve à travers l'UMP, mais parce que en même temps, un parti politique, c'est quoi ? C'est à la fois un parti où on débat effectivement d'idées, où on définit des lignes politiques. Et donc parfois ça donne lieu déjà à des débats qui peuvent être effectivement avec des positions relativement tranchées, ce qu'on disait tout à l'heure sur ArcelorMittal quand même, avec des ministres aujourd'hui qui proviennent tous d'un même parti, mais dont on voit bien que ce débat-là, c'est parce que c'est des débats éminemment politiques. Mais à côté de ça, un parti politique, c'est aussi des hommes et des femmes qui ont des ambitions. Donc nécessairement, c'est aussi parfois des tensions individuelles extrêmes comme l'offre aujourd'hui l'UMP.
Aujourd'hui, moi, je pense que avoir une UMP qui est un petit peu balkanisée avec une radicalisation de la base, ça vous le sentez également sur les territoires, ça c'est plutôt négatif, c'est un point qui vous inquiète pour l'avenir, cette radicalisation de la base de l'UMP ?
Elle date pas de toute façon du déchirement entre Copé et Fillon, quoi.
Il y a eu deux élections. Il y a eu les élections pour la présidence de l'UMP, mais il y a eu également d'autres élections pour, j'allais dire, le logiciel UMP.
Alors, c'est là peut-être qu'on peux vous faire réagir sur des chiffres qu'on a regardé de près dans le dernier numéro du Ravi. Vous pourrez lire, on va vous laisser le dernier exemplaire. Donc, il y avait une vote sur les motions. La droite, ça a été commenté. La droite forte, motion, l'aile droite de l'UMP a largement emporté avec 28% au niveau national. Personne ne conteste cet aspect-là du vote. Il y a eu aussi un vote sur la droite populaire. On connaît bien dans le Vaucluse, puisque c'est Thierry Mariani, entre autres, qui a animé ce courant. On peut déjà additionner les deux. Si on additionne droite forte et droite populaire, on arrive dans la région PACA à un score de 47% des militants UMP qui ont plébiscité donc l'aile droite de l'UMP. Si on regarde dans les Bouches-du-Rhône, on est à 50%, et si on regarde dans le Vaucluse, on est à 56% pour ces deux formations, c'est-à-dire on est quasiment à 60%. Qu'est-ce que ça... Alors vous dites c'est pas nouveau. Un courant de droite extrême.
Avec une certaine porosité avec l'extrême droite. Hein. En tout cas, des envies ou des tendances à.
Mais cette porosité, de toute façon, elle est, enfin, comment dire, elle existe déjà. En tout cas, enfin, moi, ce qui me préoccupe à la limite aujourd'hui en tant qu'élue socialiste et militante socialiste du Vaucluse, c'est plus le fait que les électeurs du Vaucluse, effectivement, à un moment donné, font des choix à travers les différentes élections pour porter aux responsabilités des candidats qui sont issus des partis d'extrême droite, donc je ne parle même pas de la droite, hein, je ne parle pas de l'UMP là en l'occurrence, mais de l'extrême droite. Marine Le Pen aux élections présidentielles sur des taux qui sont très élevés, dans, y compris des communes de la périphérie d'Avignon ou de celle de Carpentras, dans aussi des villes moyennes du Vaucluse, je pense à Cavaillon, là encore Carpentras, Orange, enfin je pourrais en citer d'autres. Donc moi ce qui me préoccupe à la limite plus, c'est pas le fonctionnement interne d'un parti ou sa droitisation ou son glissement vers l'extrême droite, parce que enfin, même si je comprends bien quelle est la stratégie qu'il y a derrière aussi, hein, de la part des militants qui font ce choix-là et de la part des leaders de l'UMP qui font ce choix-là. Moi, ce qui me préoccupe plus aujourd'hui, c'est comment j'arrive à convaincre ces électeurs qu'ils se trompent en faisant confiance à des candidats qui, à mon avis, ne répondront pas aux problèmes qui touchent leur vie quotidienne. Et ça m'intéresse plus parce que ça veut dire que moi, militante de gauche, visiblement, je ne suis pas parvenue dans le collectif auquel j'appartiens à convaincre ces habitants, soit des périphéries urbaines, soit des villes moyennes du Vaucluse, qui peuvent nous faire confiance pour essayer de répondre à leurs difficultés quotidiennes.
Alors pourquoi le Vaucluse est devenu en France quasiment c'est l'endroit où il y a le plus de députés FN. Il y en a trois en France. Enfin, il n'y a pas de députés FN. Il y a un député d'extrême droite, Monsieur Bompard.
Identité, oui.
Et puis Marion Maréchal Le Pen. Et voilà, donc deux, puis on a aussi un conseiller général, le seul, l'unique de France qui est à Carpentras, ça fait beaucoup, et des scores et des passerelles qui se créent effectivement, ou qui sont en train de se créer entre la droite dite républicaine, enfin une aile, et comment on arrive à cette situation là dans ce département, qu'est-ce qui se passe dans le Vaucluse qui fait que ce discours, que ça prend, et effectivement, qu'est-ce que vous mettez en place pour y répondre?
Donc, qu'est-ce qui se passe dans le Vaucluse? Ça, j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question-là. Hein,
On pourrait poser la même question à un représentant du Gard, puisque vous êtes limitrophe du Gard et que le Gard subit les mêmes assauts, j'allais dire.
Ouais, sauf qu'en Vaucluse aussi, Jacques Bompard, il est maire d'Orange maintenant, il en est à son troisième mandat, donc on voit que c'est un mouvement,
c'est bien enquisté, ouais.
Y compris qui s'ancre dans le territoire, quoi. Et donc,
conseiller général.
Ça aussi, ça me préoccupe. Et ce qui me préoccupe aussi, c'est que quand on rencontre en fait des électeurs qui se portent sur le Front National, il y a encore quelques années, moi je les rencontrais pas sur les marchés, quand j'allais tracter, quand je faisais du porte-à-porte, etc. C'est des gens qui revendiquaient pas forcément ce vote-là. Aujourd'hui, la donne, elle a complètement changé. On est face à des électeurs qui assument de leur choix. Et qui, y compris, en fait, le défendent. Quoi.
Donc, à ce moment-là, comment on fait quand on est une élue de gauche? Est-ce qu'on est une élue de gauche qui se décomplexe aussi, qui aborde tous les sujets, comme Manuel Valls l'a dit encore récemment, la sécurité, par exemple, qui était un sujet plutôt tabou au niveau de la gauche? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous emparez, vous?
Ouais, moi, je suis pas complexée, hein, sur aucun des sujets, donc y compris effectivement sur la sécurité. Moi, je pense qu'il faut que la gauche elle dise des choses, elle dise des choses fortes, mais qu'elle le dise avec ses référents et avec ses valeurs, parce que
apparemment elle n'est pas trop audible dans le Vaucluse avec ses référents et ses valeurs, hein.
Oui, mais je pense que le mouvement, il est aussi en fait, ok, il y a ce thème de la sécurité, mais il n'y a pas que ça. On est, par exemple, ces électeurs là qui habitent dans les périphéries des villes. Hein, il y a eu plusieurs études de sociologues qui ont essayé un peu de décortiquer qu'est-ce qui amène ces habitants à voter comme ça le vote d'extrême droite. Parce que même s'il est très marqué en Vaucluse, quand ils ont fait les analyses sur les élections présidentielles, ils ont vu que dans les périphéries de nombreuses grandes villes françaises, c'était quand même ce qu'on observait. C'est-à-dire que entre 10 et 25 kilomètres des villes, effectivement, Marine Le Pen, elle s'est souvent retrouvés sur des scores qui étaient 4 à 5 points au-dessus de sa moyenne nationale, quand François Hollande, lui, était au contraire 4 à 5 points en dessous de la moyenne nationale qu'ils pouvaient faire par ailleurs. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi des problèmes de pouvoir d'achat qui touchent complètement ces habitants-là. C'est des gens, ils n'ont pas forcément choisi d'aller habiter à 15 ou 20 kilomètres de la ville, sauf que ça a été le moyen pour eux, effectivement, de trouver du foncier qui correspondait à leurs revenus. Mais aujourd'hui, comme souvent leur emploi, ils sont restés dans la ville, ben, ça veut dire que dans la famille, il faut qu'il y ait au moins une, voire deux voitures. Quand on voit la cherté du prix de l'essence, ben, on comprend combien ça va impacter le pouvoir d'achat. Et donc, eux, à un moment donné, ces ménages-là, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se tournent vers nous et ils disent, mais vous, concrètement, vous faites quoi pour notre vie quotidienne ? Pour notre pouvoir d'achat ? Nous, on n'a pas le droit à telle aide, etc. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, se sentent abandonnés des politiques publiques. Et donc, soit on est capable de leur faire des propositions très concrètes sur cette vie quotidienne et qui ne relèvent pas simplement de la sécurité, soit on va les laisser, effectivement, continuer dans ce vote qui n'est plus simplement protestataire, mais qui est un vote, en tout cas, d'extrême droite.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Le Ravi, Radio Grenouille, on est avec Cécile L, conseillère régionale PS. Michel.
Thierry Mariani, qui est donc ancien député du Vaucluse, aujourd'hui à l'étranger, et puis peut-être candidat, on en parlera pour les municipales à Avignon, fait le pari de qu'il faut aller sur le terrain justement du discours du Front National pour récupérer les électeurs du Front National. Bon, il semblerait que dans le Vaucluse, ça ne marche pas très bien si on regarde l'expansion de l'extrême droite et ses succès électoraux. Là, vous dites, à gauche, il faut s'emparer de la question sociale, c'est ça ? Il faut donner des réponses politiques aux gens et pas forcément sécuritaire, c'est un peu le discours que vous tenez.
Moi, je pense qu'il faut répondre effectivement à toutes leurs préoccupations quotidiennes. Donc, je suis pas en train de dire que la sécurité n'est pas l'une des préoccupations quotidiennes. Au contraire, c'est une de leurs préoccupations. Notamment, je le redis, hein, dans ces périphéries urbaines où ces derniers temps, il y a eu aussi une diminution très forte quand même, en tout cas du temps de Nicolas Sarkozy. Et contrairement à ce qu'il a pu dire de la présence des forces de sécurité sur le territoire. Hein, quand on a supprimé certaines gendarmeries à tel endroit, quand on a supprimé certains commissariats, ou en tout cas diminué les effectifs, notamment des policiers sur la voie publique dans certains quartiers, ben nécessairement, c'est pas forcément ça qui va favoriser la lutte contre l'insécurité, notamment des cambriolages à répétition qui peuvent avoir lieu, parce que a priori, quand vous habitez à un endroit et que vous allez travailler pendant toute la journée à un autre endroit, on connaît tous ces zones pavillonnaires où il n'y a pas grand monde pendant la journée, on sait évidemment que c'est pas forcément du coup des zones dans lesquelles on peut enfin pour le coup on peut agir en toute tranquillité d'un point de vue cambriolage ou autre. Mais je pense que c'est pas les seules réponses. Moi, par exemple, si je reprends la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand elle porte des projets de réouverture de lignes, comme c'est le cas sur un territoire comme Avignon-Carpentras, et très concrètement qu'elle propose aux habitants qui se situent dans ce territoire-là, qui regroupe 300 000 personnes, de leur dire ben, demain, au lieu de prendre votre voiture qui impacte directement sur votre pouvoir d'achat, etc., nous, ce qu'on fait, la région PACA, c'est qu'on remet des trains là où il n'y en avait plus depuis 80 et quelques années, ben, je pense que c'est une réponse possible, sauf qu'il faut l'expliciter. Quand on leur dit, bah, votre gamin, s'il va au CFA sur Avignon ou s'il va à l'université d'Avignon, il pourra prendre le TER gratuitement, d'accord ? Gratuitement, puisque c'est la région a fait ce choix-là avec la carte Zou. Bah, quand même, quelque part, ça me semble être des propositions qui, en tout cas, peut engager le dialogue
en
et peut
temps,
dire...
C'est ce genre de thématique, c'est comme la température. Il y a la température réelle et la température ressentie. Au niveau de l'insécurité, c'est pareil. Il y a l'insécurité, les chiffres réels, oui. Et puis il y a le sentiment d'insécurité. Mmh. Et là-dessus, lutter en faisant une offre de train, de
non,
transport...
C'est parce que je suis... C'est pas ce que je suis en train de dire, mais moi je pense que ce que porte aussi Manuel Valls par exemple quand il dit qu'il faut remettre aussi des policiers sur la voie publique, je suis désolée, la suppression de la police de proximité, c'est pas nous qui l'avons portée, d'accord ?
C'est
nous
qui
l'avons mis en place.
Mais c'est pas la gauche qui la remet, puisqu'elle n'est pas remise, elle n'est pas à l'ordre du jour. Hein.
enfin, elle est dans les zones de sécurité prioritaires. Il y a quand même un renforcement des effectifs de présence sur la voie publique. Donc, je pense que c'est un élément parmi d'autres pour essayer effectivement de lutter contre ce sentiment d'insécurité.
Alors là, on a entendu, vous parliez de la ligne Avignon-Carpentras. On a entendu la déléguée, la vice-présidente à l'aménagement du territoire sur des dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Vous venez d'être nommé à la culture. Est-ce que la culture, dans cette crise identitaire dont on parle, et quand on parle d'identitaire dans le Vaucluse, il y avait une convention identitaire d'extrême droite à Orange il n'y a pas très longtemps, donc ça peut sonner différemment. Est-ce que la culture peut jouer un rôle dans cette histoire-là? On reproche souvent, et à Avignon et ailleurs, au monde culturel d'être enclavé dans des remparts et de s'adresser à une élite, à des privilégiés, à des bobos de centre-ville, pour parler de façon un peu imagée. Est-ce que la culture peut parler comme ça aux classes populaires, comme on disait autrefois?
Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu, effectivement, comme vous dites, quoi, pour la culture, de renouer avec ces classes populaires, effectivement. Et moi, s'il y a bien un discours dans lequel je me reconnais pas, ou en tout cas, à mon avis, pour lequel il faut vraiment combattre, c'est ce discours qui considérait effectivement que la culture, elle n'est accessible qu'à une certaine élite. C'est un peu ce que dit souvent Marine Le Pen, d'ailleurs. Hein, et quand là encore, quand on rencontre un certain nombre de personnes, ça ressort très vite. C'est du style, mais de toute façon, la culture qui se fait dans tel ou tel théâtre à Avignon, ou de toute façon, la culture que vous soutenez, elle n'est pas faite pour nous, etc., etc. Donc moi, je pense que la culture, elle a un rôle à jouer. Fondamentalement, en rediffusant sur l'ensemble des territoires. Mais en ce sens, je pense que moi, je suis pas d'accord avec l'idée que les acteurs culturels ils vivent en vase clos, parce qu'il y en a plein, au contraire, qui essayent d'être sur des innovations. Je pense, par exemple, à la scène nationale de Cavaillon, hein, quand elle fait ses spectacles nomades, c'est des créations, y compris, on est parfois sur du théâtre contemporain, qui sont présentées dans les communes de la périphérie de Cavaillon, celle-là même où on observe des taux très importants de vote pour le Front National, eh ben, je pense qu'il s'y passe des choses. Alors, c'est pas forcément simple. Hein, quand vous parlez avec Jean-Michel Grémier, qui est le directeur de la scène nationale de Cavaillon, c'est pas lui qui va vous dire que c'est des expériences qui sont forcément faciles à conduire. Mais par contre, il s'y passe des choses qui, moi, me semblent intéressantes. Et je pense fondamentalement, effectivement, que le recul de la culture dans un certain nombre de milieux, ou y compris dans un certain nombre de lieux, quand la culture investissait les entreprises, dans les années 60-70, ben, je suis désolée, mais il n'y avait pas ce vote d'extrême droite aussi important qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut retravailler toutes ces questions-là.
Une manière de remettre la culture au cœur des préoccupations des gens, en tout cas à leur service, c'est d'avoir plus de financement. Les emplois d'avenir, c'est une des solutions pour les associations, pour la culture de proximité. Il y en a 1000 emplois aidés qui sont pour le Vaucluse. Ça fait partie de la solution?
Ça fait partie de la solution. Je pense que tous les leviers sur lesquels on peut jouer pour asseoir le milieu associatif culturel et les emplois d'avenir en font partie. La région, elle a aussi son propre dispositif d'emploi, hein, d'aide à la création artistique auprès des structures culturelles. Et souvent, c'est vrai qu'elles reconnaissent que c'est un moyen indirect pour elles de les aider. En plus, c'est aussi un moyen d'aider à la création d'emplois et donc de répondre quand même...
Il reste que l'État finance sur ses emplois d'avenir 75%. Il reste 25% à la charge des structures. Parfois, c'est un peu lourd. Vous, qui êtes également au Conseil régional, vous dites que les collectivités doivent prendre leur part et aider sur ces 25%.
Alors, la collectivité régionale, le choix qu'elle a fait d'ores et déjà, c'est d'accompagner les futurs emplois d'avenir sur le volet formation, puisque c'est aussi l'une des dispositions de la loi qui prévoit que, pour le coup, ces jeunes qui pourront bénéficier d'emplois d'avenir soient aussi accompagnés du point de vue de la formation. Parce que l'idée, après, c'est effectivement pour eux de pouvoir voler de leurs propres ailes et trouver un emploi, je dirais, un emploi classique. Après, on est en discussion politique là, à l'échelle de la majorité régionale pour savoir, effectivement, effectivement, si on prend l'exemple d'autres régions qui ont déjà pris cette décision, de pouvoir accompagner financièrement ces emplois d'avenir, par exemple en abondant de 10%, et à ce moment-là, il ne resterait plus que 15% à la charge des associations. Simplement, nous, comme on était porteurs de beaucoup d'emplois aidés au sein de notre institution, il faut qu'on arrive à mettre nos dispositifs en fait en concordance avec les emplois d'avenir. Mais moi, je suis assez partisane, effectivement. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, là, et donc la décision, elle sera prise évidemment au début de l'année 2013, puisque concrètement, les emplois d'avenir vont arriver dans les différents départements au début de l'année 2013.
Michel Guéraud.
Comment on arrive avec... pourquoi on change d'une délégation comme ça? On s'interroge des fois. Vous étiez à l'aménagement du territoire, vous arrivez à la culture, c'était une envie, il y avait un poste, il y avait un siège qui est libre.
En l'occurrence, il y a eu une opportunité quand même qui est liée à la loi sur la limitation du cumul des mandats et qui fait à la fois au bon résultat, de
Patrick
la gauche.
Minucci,
on va être dans
du monde.
Vous avez pris la place de Patrick Minucci, la délégation.
Au bon résultat
Minucci.
De la gauche sur les législatives et qui a fait qu'il y a deux vice-présidents de la région, donc Christophe Castaner, qui était vice-président en charge du développement économique de l'emploi, et Patrick Minucci, qui était vice-président en charge de la culture, sont devenus députés. Et comme ils sont par ailleurs, et l'un et l'autre, maire de Fort-Calquier et maire de quartier pour Patrick Minucci, du coup, se sont retrouvés en situation de cumul et donc ont libéré leur poste de vice-président. Donc ensuite, il y a deux conseillers régionaux qui sont devenus vice-présidents, qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Et il y a eu une redistribution, on va dire, des portefeuilles. C'est comme un remaniement ministériel. Hein. Enfin, c'est à peu près le même. Et
mais
donc, moi, le président Michel Vozel m'a... Le président Michel Vozel m'a proposé de prendre cette vice-présidence de la culture. J'ai discuté avec lui. Voilà, il a fallu aussi que, justement, parce que moi j'étais sur un autre champ depuis 2 ans dans lequel je m'étais aussi beaucoup investi. Non, ça ne m'a pas vraiment étonné.
Certains parlent parce que bon, la personnalité de Patrick Minucci, comme il vise la mairie en 2014 à Marseille, vous seriez, il veut toujours avoir un œil sur cette délégation, vous seriez plutôt une responsable sous influence.
Sous influence, oui. Je pense que ceux qui disent ça, ils ne me connaissent pas bien alors, je pense, mais si en tout cas Patrick Minucci le pense, ben, il va peut-être vérifier que ce n'est pas tout à fait le cas, quoi.
D'accord, ils se sont dit, voilà, Avignon, Cécile L, la culture, oui, le festival, ça a du
ça
sens.
Peut être aussi un coup de pouce. En tout cas, quand
on a...
Après, ça me convient mieux comme éventuelle interprétation sur ma prise de responsabilité sur cette vice-présidence. Non, après, voilà, moi j'ai toujours...
Non, parce que vous touchez en plus, ça a été signalé par la presse, vous touchez en plus les écrêtements de Patrick Minucci.
Oui, tout à fait, oui. Mais ça, c'est... De toute façon, c'est public, quoi, donc il n'y a pas de...
Enfin... C'est dit, voilà, il y a une certaine proximité déjà dès le départ.
Ben après, il y a des proximités politiques, on va dire. Enfin, puis Patrick Minucci faisait partie et fait encore partie du groupe socialiste. Donc, mais après, je le redis, je suis une élue à part entière. Enfin, je pense que mon parcours politique, pour le coup, montre que je suis une élue qui est relativement indépendante, pour ne pas dire plus, dans ses prises de décision et ses prises de position, y compris au sein de l'institution régionale. Donc je pense que si vous allez traîner vos oreilles dans cette institution, on vous dira que je suis une élue qui défend ses dossiers, qui défend ses convictions. Ça m'a coûté par le passé, hein, parce que je pense que quand on est sur cette ligne politique-là, on a forcément un parcours politique qui n'est pas toujours linéaire. Mais c'est aussi ce qui forge le caractère.
Alors rapidement, deux dossiers peut-être culturels, et puis on parlera d'Avignon plus directement. Marseille-Provence 2013, ça va démarrer. La région est impliquée dans cette capitale. Alors le Vaucluse n'est pas inclus, même si le territoire est très large. Il y a plein d'enjeux, on attend plein de choses autour de cette capitale européenne, au niveau culturel, mais aussi au niveau touristique, au niveau de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on ne demande pas un peu trop, selon vous, au secteur culturel? Il y a des réunions régulièrement à Avignon, la nouvelle économie, etc. Enfin, alors que ce secteur-là galère aussi, les artistes, les compagnies, les structures. On attend d'eux de rebooster un territoire comme ça, d'être un accélérateur en plein endroit. Vous êtes optimiste sur la réussite de MP 2013 et...
Il y a eu d'ailleurs, à ce propos, un aparté, au mois de novembre, la 5e édition du forum où la ministre est venue dire que l'économie était au cœur de la culture, ou inversement, la culture devenait au cœur de l'économie.
Je pense qu'après que c'est aussi des réussites comme l'île capitale culturelle qui a... qui a montré comment une ville et un territoire, pour le coup, qui réussissait cet événement, était susceptible, effectivement, de redynamiser, je pense, l'ensemble d'un territoire.
Alors, en PACA, on a Avignon 2000, on ne s'est pas resté dans les mémoires.
J'allais citer le contre-exemple pour montrer quel est tout l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, et notre enjeu collectif par rapport à un événement comme Marseille-Provence 2013, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce que c'est finalement, est-ce que ça va être un coup, hein, c'est-à-dire 2013, et puis qu'après, on n'entendra plus jamais parler, ou plus beaucoup en tout cas, de Marseille-Provence, capitale européenne, ou est-ce qu'au contraire, qu'on se donne les moyens, comme l'a fait Lille, de considérer qu'effectivement la culture, elle est vecteur à la fois de développement économique pour notre territoire et y compris de développement de l'attractivité de notre territoire et de renforcer ces deux aspects-là. Mais ça, à la limite, on sera capable de le mesurer si on est capable d'aller au-delà de 2013 et de poursuivre sur une dynamique à peu près comparable sur 2014 et les années suivantes.
Qu'est-ce qui n'a pas marché à Avignon et qu'il ne faut pas refaire à Marseille alors ? Pourquoi si peu de traces ? Pourquoi si peu d'effets ? Pourquoi si...
Je pense déjà qu'à mon avis, il n'y avait pas forcément une dimension territoriale au projet. Donc ça, c'est une première... Alors en l'occurrence, elle n'était qu'urbaine, mais même la dimension urbaine, elle n'a pas été suffisamment, à mon avis, prise en compte. Là, moi, ce qui me semble intéressant dans Marseille-Provence 2013, c'est que dès le départ, on est sur un territoire qui ne concerne pas que la ville de Marseille, mais on est bien sur une approche un peu globale de quasiment l'ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, avec en plus différents pôles qui sont positionnés en différents endroits, Aix, Arles, Aubagne.
C'est sa force, c'est aussi sa faiblesse, puisqu'on a vu que l'État avait repris les choses en main, le préfet avait critiqué le manque d'harmonisation au niveau logistique sur le département, donc il y a déjà 4 ans que le projet a été lancé, et c'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'il y a un manque, qu'il n'y a pas un leader pour gérer tout ça, une structure en tout cas pour gérer tout ça, donc c'est à la fois une force, mais c'est également une faiblesse.
Ouais, mais je pense que c'est cette force-là qui est susceptible, pour le coup, de nous permettre d'être sur le scénario de Lille, capitale européenne, plutôt que d'être sur le scénario d'Avignon, capitale européenne. Mais charge à nous, dans l'année 2013, effectivement, de faire en sorte... Après, je pense que ce qui avait manqué aussi sur Avignon, capitale culturelle de l'an 2000, et ce qui a bien marché aussi à Lille, c'est qu'il faut absolument faire de cet événement un événement populaire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'appropriation... par les acteurs culturels du territoire, mais au-delà, par les habitants du territoire. Et si, notamment aussi, les habitants du territoire ne se rendent pas compte que c'est une vraie opportunité, non seulement de rayonnement culturel, d'offres culturelles, mais au-delà de développement, à ce moment-là, on n'arrivera pas à relever ce défi qui, pour moi, est essentiel. Et en tout cas, c'est ce que je porterai tout au long de l'année 2013 dans les instances de gouvernance de Marseille-Provence 2013 pour réussir cet après-2013.
Mais là, jusqu'à présent, vous avez un œil bienveillant sur le déroulé de ce projet.
Écoutez, moi, j'arrive là. Hein, c'est un dossier aussi que je prends en cours. Je dirais que c'est un œil vigilant.
Vigilant.
Ça me paraît bien, non ?
Vous pouvez confirmer ou infirmer la présence de François Hollande, président de la République, pour le lancement le 12 janvier ?
A priori,
Gaudin dit oui.
Moi, au dernier comité, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, là, je ne suis pas tout à fait pilotage, mais enfin c'est l'équivalent, la présence du président de la République a été effectivement annoncée pour le 12 janvier. Mais bon, d'ici là, je ne sais pas si elle sera confirmée.
Michel, alors, franchissons les portes du rempart à Avignon par le biais culturel, pourquoi pas ? Donc il y a un festival, tout le monde en parle, tout le monde le connaît, etc. C'est la carte maîtresse de la ville. Et pourtant, on a un peu l'impression que cette ville, en dehors de ce temps-là, ce temps fort-là, n'a pas su vraiment s'imposer comme une capitale culturelle. Vous confirmez, vous démentez
C'est la malédiction de la monoculture, celui du festival.
Une ville comme Arles semble, par exemple, presque mieux positionnée sur le même terrain.
Oui, je partage votre avis enfin, sur cette comparaison entre Arles et Avignon. Mais je pense que la principale raison, c'est parce qu'on a toujours cru à Avignon que parce qu'on avait des équipements culturels, et on en a. Et on en a beaucoup. Parce qu'on a des acteurs culturels à l'année. Et parce qu'on a des événements marquants, et évidemment le festival en est un, ça suffit à créer une ville culturelle. Mais non, c'est pas ça une ville culturelle. D'abord, une ville culturelle, comme je disais à l'instant, c'est une ville dont la population a des pratiques culturelles et s'empare de cette offre culturelle et de ces opportunités culturelles. Or, quand on fait et quand on regarde quels sont ceux et celles qui aujourd'hui bénéficient de cette offre culturelle un peu exceptionnelle pour un une ville de la taille d'Avignon, ben effectivement, on est plutôt dans une population qui ne concerne qu'une frange de cette population. Il y a encore beaucoup d'habitants d'Avignon qui, malheureusement, ne poussent pas la porte d'un théâtre, ne franchissent pas les murs d'un musée, etc. Donc, il y a un vrai travail d'appropriation, en fait, des pratiques culturelles. Il y a des acteurs, évidemment, qui travaillent là-dessus, mais je pense qu'il faut aller
mais
beaucoup plus loin.
Mais là-dessus, vous dites... Jusqu'à présent, la politique culturelle à Avignon, c'est un échec. L'opéra,
écoutez,
par exemple, ça plombe.
Non, mais pourquoi il
n'y
a pas de passe culture pour les jeunes, quoi? Simplement une posée. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est un truc qui existe dans beaucoup de villes. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, me semble-t-il. Et donc, moi, ce que je m'interroge, c'est pourquoi on ne propose pas aux moins de 30 ans sur Avignon, ben voilà, avec un passe culture, un accès privilégié. Parce que, évidemment, on me dit, ah, mais Cécile, le prix d'entrée ne fait pas tout. Mais on sait que c'est souvent une barrière. Et donc, moi, je dis, bah, OK, banco, essayons de lancer ce pass culturel. Faisons en sorte que l'accès aux différents lieux culturels soit facilité. Et on verra bien s'il y a ou non, visiblement, dans toutes les villes qui l'ont fait, il y a eu quand même une fréquentation beaucoup plus marquée, et y compris, par exemple, Strasbourg, qui a été l'une des précurseurs en ville du temps de Catherine Trottmann à mettre en place ces types de dispositifs, a vu évidemment une diversification des publics qui fréquentaient les théâtres, l'opéra, les scènes de musique actuelles, etc. Donc ça me paraît être un premier élément. Après, je pense qu'Avignon, au contraire d'Arles, n'a pas su non plus considérer que la culture pouvait être un vecteur de développement économique.
D'accord.
Il ne s'agit pas de le dire. Il ne s'agit pas de le dire. Il faut créer les conditions pour faire en sorte, effectivement, que des acteurs culturels qui sont plutôt dans la création culturelle viennent s'installer au sein de votre territoire.
Alors, Avignon, hein, une des rares villes en PACA qui, au moment des élections nationales, vote à gauche, dans un département pourtant bien ancré à droite, on en a parlé. Donc, une ville ouverte, potentiellement, pour la gauche au municipal en 2014. Vous êtes déjà en campagne, c'est tôt.
Vous êtes candidate,
c'est
oui,
clair.
Là, pour le coup, ça fait presque un an maintenant, donc...
Voilà. Alors, déjà, c'est pas trop tôt. Pourquoi c'est elle?
Ah bah.
Subtil.
Est-ce que c'est trop tôt? Moi, je pense qu'il est jamais trop tôt pour partir. Après. En plus, moi, ce que j'avais envie dans cette échéance municipale, c'est aussi essayer de construire un projet pour ma ville collectivement. Donc, tout à l'heure, là, quand vous avez parlé de l'atelier de 2014, qui est l'association, effectivement, que j'ai mis en place début octobre, vous avez dit, ouais, c'est un comité de soutien. A priori, c'est pas ça l'objet de l'association. Moi, cette association, alors évidemment, non, mais les gens qui y adhèrent dans cette association se reconnaissent plutôt dans ma candidature.
Le pass culture, c'est le fruit de... Ça sort du brainstorming des ateliers 2014.
Oui, ça sort. Et après, moi, j'ai aussi voilà, un certain nombre d'idées sur cette ville, parce que c'est une ville dans laquelle je vis depuis bientôt 30 ans. Je travaille à l'université. Enfin, j'ai aussi beaucoup d'échanges avec les acteurs associatifs, socio-économiques de cette ville, parce que j'y suis élue, vous l'avez rappelé, depuis quelques années maintenant. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de tester ces idées, parce que moi, je me dis... Ben voilà, il y a peut-être des idées qui peuvent apparaître effectivement pertinentes et puis d'autres qui le sont moins. Et puis elles peuvent venir peut-être s'enrichir de remarques ou de débats que tu pourras avoir avec d'autres Avignonnais qui ont d'autres vécus et qui ont peut-être aussi d'autres envies pour cette ville. Donc l'idée de cet atelier de 2014, c'est aussi quand même un laboratoire d'idées. Et donc c'est de se dire, ben voilà, moi j'arrive pas à 3 mois de l'échéance avec un projet qui est tout packagé déjà. Je sais tout sur tout et je vais vous donner à voir ce que sera Avignon, si jamais vous me faites confiance. Moi, ça, j'ai envie de le bâtir avec les Avignonnais, les Avignonaises, en tout cas avec celles et ceux
Alors,
qui ont envie...
Avec les Avignonnais contre Rouag ou contre certains de vos camarades, parce qu'on a vu qu'il y avait pléthore de candidats au niveau de la gauche. Alors, il y aura bien entendu des primaires, enfin, je crois, pour la ville d'Avignon également. Là-dessus, vos principaux adversaires, pour l'instant, c'est Rouag, qui en a son troisième mandat et qui ne souhaite plus officiellement, en tout cas, se représenter, ou c'est vos camarades socialistes?
Elle souhaite se représenter, mais pas seule. Hein,
elle a dit il y a un an de ça qu'elle ne se représenterait plus.
Non, mais moi, je m'inscris dans une démarche qui est positive, quoi. Donc déjà, j'ai envie que les Avignonnaises et les Avignonnais qui me rejoignent dans l'atelier de 2014, ça soit pour... le changement sur Avignon, ça serait très clair.
Mais derrière vous.
Et effectivement, pour en soutien à la candidature de Cécile L en tête de liste. Quoi. Ça, je vais pas le nier, mais c'est pas la même chose de le présenter comme ça que de dire que ma candidature, elle doit s'interpréter contre quelqu'un ou éventuellement contre d'autres personnes au sein de ma propre famille politique.
Rouag, 20 ans de quasiment, hein, c'est ça, de mandat.
Oui, elle est élue depuis 95.
Bon, donc elle est quand même responsable de beaucoup de choses dans l'état de la ville aujourd'hui.
Ah ben elle est responsable, oui, d'un certain nombre de choses. Donc après, je veux dire, il y aura le temps de la campagne politique. Et puis, je veux dire, moi, à travers un certain nombre de positions que je peux prendre, il y a des positions où je ne manque pas de m'opposer par rapport à ce qu'a pu
Vous êtes pour les primaires, Cécile? Les primaires à gauche, pour choisir un candidat? Parce qu'il faudra forcément le choisir, puisqu'il y en a beaucoup.
Moi, écoutez...
Il y a Christine Lagrange qui s'est déjà déclarée. Vous êtes déjà au moins deux. Fournier-Armand qui suppose. Il y a aussi un candidat du Front de Gauche.
Oui, donc après, déjà, il faudra savoir quelle est la nature de ces primaires. Enfin, est-ce qu'elles concernent l'ensemble des partis de gauche? Parce que les primaires telles qu'elles ont eu lieu au niveau national, a priori, il y avait le PS et le Parti radical de gauche.
Mais
les
vous
autres,
êtes pour les primaires?
Écoutez, moi, je suis assez partagée, donc...
Vous connaissez le dossier, pourtant.
Mais je vais vous dire pourquoi. Oui. D'une part, parce que les primaires, quand elles ont été mises en place au niveau national, c'était pour désigner le candidat socialiste aux élections, ou radical, aux élections présidentielles, mais on est dans un scrutin qui est uninominal. Vous n'avez pas échappé que dans une élection municipale, même si la tête de liste, elle joue un rôle important, pour moi aussi, ce qui est essentiel dans une élection municipale, c'est l'équipe qui sera aussi autour du maire. Parce qu'un maire, il peut beaucoup de choses, mais je pense que s'il ne sait pas s'entourer d'élus qui iront mouiller la chemise et qui l'accompagneront sur un certain nombre de projets
enfin,
et de politiques publiques...
Le principe est tacté, puisqu'à Paris, il y aura des primaires. À Marseille, il y aura des primaires. Harlem Désir l'a annoncé. À Avignon, il y en aura probablement. Donc...
Moi, je participerai, évidemment. Enfin, ça va pas... Vous n'allez pas être surpris si on me dit qu'il y a des
mais
primaires.
Mais en même temps, vous auriez
participer.
Préféré
Après,
être choisi,
non,
c'est ça
ce que je demanderai aussi, c'est à ce qu'on m'assure que ces primaires, elles se feront dans la transparence la plus totale, qu'elles seront...
Vous n'avez pas confiance dans votre fédération? Normalement, c'est les fédérations qui gèrent. Hein.
Oui, enfin...
Qui organisent et qui gèrent les primaires.
Comme elles l'ont fait pour les primaires nationales.
Vous
n'avez
pas confiance dans votre fédération?
Si, mais moi, je demande simplement à vérifier, effectivement, que... Enfin, parce que il me semble qu'il y a peut-être des éléments de biais qui peuvent plus intervenir que si on est sur une élection nationale.
C'est-à-dire?
Par exemple, qu'est-ce qui empêche des électeurs de droite de se dire « Tiens, on va choisir le candidat du Parti Socialiste ou de la gauche aux élections locales ». Comme il y aura moins d'électeurs quand même qu'au niveau national, ce que je veux dire, c'est que ça peut influer plus que quand vous êtes dans une logique d'élection présidentielle. Mais après, enfin, moi je vous rassure, hein, s'il y a une primaire sur Avignon, il n'y a pas de souci, je serai candidate et je mouillerai la chemise pour être désignée dans le cadre de ces primaires.
Est-ce que ce surplus finalement d'ambition, d'enthousiasme pour cette échéance à venir, c'est pas la machine à perdre qui se met en place sur une ville où pourtant les chances de la gauche sont ouvertes?
En même temps, vous savez, moi, quand j'ai pris l'initiative de lancer cette association Atelier de 2014, on est début octobre 2012. Je fais ça à la mairie d'Avignon, donc j'avais pris une salle de 100 personnes. Je suis obligée de me rapatrier dans la salle des fêtes. Il y a 250 personnes qui viennent, alors qu'on est en octobre 2012 pour une échéance qui est en mars 2014. Je pense que les attentes, elles sont là. La dynamique, elle est là. Donc, à mon avis, c'est pas la machine à perdre. Après, c'est notre responsabilité, mais c'est la responsabilité des leaders, et non pas, je dirais, des citoyens avignonnais, notamment des citoyens qui se reconnaissent dans la gauche. Eux, ils ont cette envie de changement.
Alors, il y a des choses vagues qui circulent, forcément. Il y a des ambitions. Certains de vos amis disent, Cécile, elle, d'accord, elle est très bonne technicienne, mais elle n'a jamais été élue sur son nom. Et puis, c'est une technicienne. Elle n'a pas le feeling pour...
Vous n'avez pas les marchés?
Ben écoutez, je pense que ces gens-là, c'est pareil, ils me connaissent pas bien, parce que moi, je suis l'une des rares élues, je pense, à avoir conservé mon emploi aussi, ma profession. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Donc ça me permet de rester les pieds dans la réalité professionnelle. Alors je suis enseignante à l'Université d'Avignon, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc moi, tous les mardis, tous les mercredis, enfin toutes les semaines, je rencontre des jeunes étudiants, je rencontre mes collègues que je croise dans les couloirs. Je vais régulièrement vraiment sur le terrain. Donc moi, ce que j'ai envie aussi, et ça sera l'un des enjeux à mon avis de cette élection, y compris pour moi, c'est de montrer qu'on peut avoir des idées pour sa ville et en même temps être très proche des préoccupations de ses concitoyens, vivre dans sa ville au quotidien. Moi, j'habite à Avignon, dans un quartier, les gens me connaissent, je les rencontre à la boulangerie, il n'y a pas de souci.
Cécile, en deux mots, puisqu'on arrive au terme de cette émission, ce sera un combat de femmes pour cette mairie à Avignon qui est dirigée par une femme. Qu'est-ce qu'il faudrait à la candidate? Quels sont les atouts, en deux mots, qu'il faudrait pour conquérir cette ville? Mais et que vous pensez avoir?
C'est ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut qu'elle ait, ou que cette personne en tout cas, ait la conviction que le changement est possible sur Avignon, pour qu'elle ne soit plus la belle endormie, impression qu'elle donne aux visiteurs. Et pour moi, cette conviction-là, ça passe à la fois par être en capacité de donner à voir ce que pourrait être Avignon dans l'avenir, et de dire aux Avignonnais, ben voilà, moi j'ai envie de vous redonner la fierté d'être avignonnais, mais en même temps, j'oublierai pas vos préoccupations quotidiennes, parce que je sais que le maire, c'est l'élu qui agit dans la proximité, qui est là aussi pour répondre aux problèmes que peuvent rencontrer vos gamins quand ils vont à l'école, qui est là aussi pour répondre à vos problèmes de poubelles quand elles sont pas ramassées ou quand à la mairie on vous répond pas, etc. Donc moi, j'ai envie aussi d'être une élue de terrain, à l'écoute de mes concitoyens, mais en même temps montrer que ça, c'est pas antinomique d'avoir une vision pour sa ville.
Cécile, je vous remercie. On n'a pas eu le temps de parler du tramway sur lequel vous êtes contre, ni de ce fameux téléphérique qui aurait pu survoler jusqu'à l'île de la Barthelasse. Ce sera certainement pour une autre fois. Allez, le mois prochain, on se retrouve avec un tout autre invité. Plein de bonnes choses. Excellente fête de fin d'année, du moins si on survit après le 21. Bye.
Au revoir.